Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Vous écoutez
Geneviève Peterson,
Cube Radio.
Pour développement dans le dossier de l'archevêché de Montréal qui se penche sur les cas d'abus sexuels dans son organisation. Il y a eu un point de presse ce matin avec l'Ombudsman de Montréal. On jase de tout ça avec Alain Pronkin qui est spécialiste des nouvelles religieuses. Alain, salut.
Oui, bonjour Geneviève.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, je m'ennuyais.
Bon, ben écoute, appelle-moi plus souvent.
Écoute, juste peut-être oui. Faire une petite récapitulation de ce dossier-là là, pour qu'on sache un peu où
tout
se situer.
Part.
Oui, exact.
OK. Ça part, il y a un prêtre, Brian Boucher, qui a agressé sexuellement des enfants, qui a été condamné à 8 ans de prison. On part de ça. L'archevêque de Montréal, Mgr Lépine, décide à ce moment-là, il faut que j'aille au fond des choses. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce dossier-là? Il mandate la juge retraitée, Mme Capriolo, et elle fait une enquête là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on a échappé le ballon? À la fin, elle fait des recommandations à Mgr Lépine, et Mgr Lépine décide d'appliquer les recommandations. Je pense qu'au-delà de 30 recommandations, puis il en a mis 15 en vigueur pour dire on va partir un système indépendant. Parce que ce qu'on s'est rendu compte dans l'affaire de Brian Boucher, moi j'appelle ça la nébuleuse des plaintes. C'est que les gens se plaignent, il n'y a pas quelqu'un qui fait vraiment une plainte officielle. Tout le monde enquête un peu, tout le monde fait un petit peu de ci, tout le monde camoufle, on arrête, on repart. Et ça aboutit à ce que c'est devenu quelqu'un qui agressait systématiquement des enfants. Bon. Là, la première étape, c'est de dire, bon, on va créer le poste d'ombudsman. Bon, un ombudsman, comme la plupart des gens l'entendent, c'est quelqu'un qui est indépendant du pouvoir et qui peut agir d'une certaine façon à sa guise. Quand on voit l'ombudsman au gouvernement du Québec ou pour les justiciables, on s'attend à ça. Bon, là, on a un ombudsman et on nous le présente comme étant quelqu'un d'indépendant de l'Église. Parfait. Je suis bien d'accord. Sauf que il faut regarder qu'est-ce qu'on veut dire par ombudsman indépendant.
Ouais.
Dans ce cas-là, ombudsman indépendant, c'est que c'est une avocate, Maître Kerouac, qui dit « Je suis indépendante pour la simple et bonne raison que je suis dans aucun organisme religieux, je suis dans aucune paroisse parce que je suis juive. » Elle dit « Mon indépendance, elle est là, j'ai rien à voir avec le pouvoir religieux. » Et le pouvoir religieux ne peut pas l'excommunier, qui est la sanction ultime en religion. Bon. Mais est-ce que c'est un ombudsman qui est vraiment indépendant ou c'est plutôt quelqu'un qui reçoit les plaintes des victimes? Moi, c'est dans la deuxième étape. Elle reçoit les plaintes des victimes, quand il y a une plainte, et ce qu'elle doit faire, elle doit l'envoyer à un comité aviseur qui, lui, est présidé par quelqu'un qui est nommé par l'archevêque, un religieux nommé par l'archevêque, et qui a 5 personnes laïques qui composent les membres. Et eux font rapport à l'archevêque de Montréal.
OK, attends, Alain, c'est quand même spécial. Là. Donc, ce que je comprends, c'est qu'elle reçoit les plaintes des victimes et envoie ça à un comité qui est chapeauté par l'archevêque. C'est pas tellement indépendant dans mon livre à moi, tout ça. Là.
Et en plus, toutes les informations qu'elle reçoit de la victime, elle doit les transmettre au comité. Fait que moi, je lui ai demandé, j'ai dit, bon, ben ça veut dire que la victime arrive, dit, j'ai été agressée par tel prêtre, puis ça peut être des agressions physiques, sexuelles ou spirituelles, là. Toute plainte. Elle apprend ça, elle envoie ça. Elle est obligée d'envoyer toutes les informations, même confidentielles. Le comité aviseur, lui, fait son enquête après ça, on fait ci, on fait ça.
Mais pourquoi, pourquoi c'est un comité aviseur qui fait l'enquête? Pourquoi c'est pas la police?
OK. Elle peut aussi suggérer la police. Dans le cas de mineurs, je pense qu'ils sont obligés. Mais ce comité aviseur-là, tu as un ancien policier retraité, tu as une victime, tu as quand même des psychologues, tu as quand même...
OK. Fait que des gens relativement indépendants, là, évidemment, qui font partie d'autres professionnels.
Oui, mais moi, c'est toujours le caractère d'indépendance. Parce qu'ils sont obligés de faire rapport à l'archevêque. Tout ce qu'ils ont, ils sont obligés de l'envoyer. Et l'archevêque, lui, est-ce qu'il est tenu par ses assureurs à te faire dévoiler ça, parce que c'est ce que j'ai demandé à Maître Kerouac. J'ai dit, puis elle l'a jamais nié. Donc, si elle reçoit une victime qui se plaint, tout ce que va dire la victime peut se retrouver éventuellement dans les mains de l'assureur du diocèse. La difficulté est là. L'indépendance, c'est de dire, non, ce que vous me dites reste dans mon bureau d'ombudsman. Est-ce que ce n'est pas le cas? Puis, c'est ça qui est...
c'est excessivement problématique et c'est pas c'est... tellement tentant d'aller porter plainte quand on sait ça, peut-être pour plusieurs victimes. Deux...
Oui, parce que tu t'attends que la personne à qui tu vas te confier va dire « Oui, je le garde pour moi, mon dossier, et je vais faire la plainte après. » Tu t'attends à ça.
Oui, puis en même temps, un des trucs qu'on a reproché à l'Église dans toutes ces histoires d'agression sexuelle, c'est d'avoir gardé le secret, d'avoir préservé des gens. Je pense que de la part du public, là, on s'attend à une certaine transparence. Elle est où, cette transparence-là? Est-ce que l'Ombudsman va être dans l'obligation de révéler, de faire des rapports publics sur les tenants et aboutissants de ces démarches?
OK. C'est ce qu'elle nous a dit. Elle va faire un rapport statistique une fois par année. Elle ne donnera pas les noms des victimes, j'espère, là. Mais ça va plutôt être un rapport statistique. Il y a eu tant de plaintes, tant de choses qui sont retrouvées au bureau de l'archevêque, qui a pris des mesures appropriées. Et elle va pouvoir accompagner la victime lors du procès canonique. Parce que ça, c'est nouveau. C'est un point que j'ai toujours soulevé. Dire, qu'est-ce qui se passe dans un procès à l'Église? On ne le sait jamais. Elle va pouvoir accompagner la victime dans ce procès-là, parce qu'il y a des victimes qui ont dit que ça a été très traumatisant de se retrouver devant ces procès-là.
Mais c'est comme le tribunal militaire. T'sais, on remet en question beaucoup ça aussi dans la foulée des agressions sexuelles dans l'armée canadienne, le fait d'avoir une espèce de tribunal indépendant, un micro-climat, les gens de l'armée qui justice, c'est comme en dehors du monde, là, puis c'est la même vision en ce qui concerne le Vatican, à un moment donné, et c'est sûr que c'est on parle d'indépendance, là, on parle de transparence. C'est clair que c'est pas en faisant des procès canoniques qu'on va arriver à quelque chose, à mon sens.
Et l'autre difficulté qu'il y a avec ça, ça, c'est difficile à situer. C'est que le pape a toujours dit à ses évêques, vous devez rencontrer les victimes.
Et
là, on se rend compte, l'archevêque ne rencontre plus les victimes. Il a délégué son pouvoir à l'ombudsman qui reçoit les plaintes, qui envoie ça à un comité aviseur, et lui, il ne rencontre pas les victimes. Et je me pose la question, et je l'avais posée souvent, c'est de dire, écoute, l'évêque, il représente qui? Son paroissien qui est victime d'agression par son prêtre, ses assureurs ou le Vatican.
Non, mais le problème, c'est qu'il représente tout le monde.
C'est ça. Et il est toujours en perpétuel conflit d'intérêts. Mais là, il ne le règle pas parce que toute l'information qui va être dite à l'ombudsman risque de se retrouver chez lui. Et c'est ça, c'est où tu fermes la porte en disant les informations que l'ombudsman a, personnelles ou privées, restent à l'ombudsman. Qui, lui, avec son équipe, avec les psychologues, avec les experts, puis ça, c'est très bien qu'il y ait tout ça, va dire, écoute, l'information reste chez nous.
Oui. Ben c'est ça. Puis là, dans ce qui a été discuté, est-ce qu'il y a quelque chose qui concerne les communautés religieuses?
Voilà, ça, c'est l'autre gros problème. Les communautés religieuses, non. Parce que les communautés religieuses sont séparées du diocèse. Le diocèse ne peut agir que dans sa juridiction, qui est ses prêtres qui sont en paroisse. Les communautés religieuses, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est s'il y a une plainte, ils vont appeler le supérieur de la communauté religieuse en disant, regarde, il y a une plainte contre ton prêtre qui est là.
Ouais.
Mais il n'y a rien qui se passe. Et c'est ça la différence avec la France. Parce qu'en France, il y a la commission Sauvé. Et la commission Sauvé, on a réussi à mettre les communautés religieuses, les évêques, tout ce qui s'appelle religieux ensemble pour faire une enquête avec 30 spécialistes indépendants de l'Église, qui n'ont rien à voir avec l'Église.
Oui, puis on a eu, je ne sais pas si tu te rappelles, tu t'en rappelles, Alain, mais on avait discuté ensemble d'un dossier où c'était des religieuses qui s'étaient plaintes d'avoir été agressées sexuellement par des prêtres, parce que ça aussi, c'est une situation particulière.
Mais si ça se passe dans une communauté religieuse, à ce moment-là, l'ombudsman n'a rien à voir. Mais si la religieuse a été agressée par un prêtre en paroisse, là, l'ombudsman va faire quelque chose. Parce que l'ombudsman, sa juridiction, c'est vraiment majeur ou mineur. C'est-à-dire les jeunes comme les majeurs de toute époque. C'est-à-dire que si l'agression a eu lieu en 1950, elle peut s'en occuper. Parce que ça, c'était une autre crainte des gens. Elle disait, oui, mais c'est-tu juste à partir de 2021 que ça s'applique? Non.
Fait que c'est rétroactif. OK. Puis là, tu parlais de Brian Boucher tantôt. C'est quand même, je pense qu'il faut le redire, là, jamais de plaintes formelles qui sont faites par les victimes. Ça complique énormément le travail. Parce que quand les dossiers sont menés toujours à partir d'observations qui sont menées par le personnel religieux, là, je sais pas comment les appeler, là, les gens qui travaillent à l'Église, l'ombudsman ne peut plus rien faire, en quelque sorte.
Tant que ça reste une nébuleuse, c'est difficile d'agir. Parce que l'ombudsman, doit fonctionner avec une plainte. Mais la plainte a lieu comment? Si c'est le prêtre qui parle à un autre prêtre qui dit, as-tu vu son comportement? Il était de même, il était de même. Parce que Brian Boucher, là, ça a commencé quand il était au séminaire. quand j'étais au grand séminaire de Montréal.
Dans sa formation.
Monseigneur Ouellet, qui est rendu cardinal à Rome, qui était là à cette époque-là. Mm. Et déjà, ses problèmes de comportement étaient là. À la juridiction, mais qui va faire la plainte?
Oui. Donc, est-ce que tu estimes...
Comment ça va se faire, oui.
Est-ce que tu estimes qu'on a quand même avancé dans ce dossier-là? Ou à ton sens, il reste trop d'angle mort pour pouvoir dire que c'est en quelque sorte une victoire?
Il y a beaucoup trop d'angle mort. Le système est lourd comme tel, mais on sent une volonté. On sent la volonté que là, enfin, il va y avoir un psychologue, enfin, il va y avoir un ancien policier, il va y avoir une victime qui va rencontrer ces gens-là.
Ouais.
Ça, c'est déjà le bon côté, ce côté-là humain. Mais d'autre part, est-ce qu'on va aviser la victime que tout ce qui est dit à l'ombudsman se retrouve partout? Ça, on ne le sait pas.
Ouais.
Moi, je sais pas. Si t'es une victime, tu vas rencontrer les policiers. Tu sais que tu vas rencontrer les policiers, que ça va rester au poste de police.
Tu sais que ça sortira jamais de là.
Oui, ça va rester au poste de police. Mais là, tu dis, bon, ça va-tu finir à l'archevêque, ça va-tu finir aux assureurs? Parce que quand ça va dans un bureau de policier, ça ne va jamais à des assureurs. Ça reste là. Même les assureurs sont pas capables d'avoir les dossiers de police. Mais c'est ça, là. Et c'est comment garantir cette indépendance-là? Et le problème de l'Église est toujours là, parce qu'ils sont toujours perpétuellement en conflit d'intérêts, parce qu'ils
Ils sont dans un protectionnisme, Alain, on va se le dire, là, ils sont dans une mentalité de protectionnisme, puis même, le nouveau pape quand même, qui a levé le secret sur les dossiers d'agression sexuelle, c'est un pas en avant, mais il reste quand même toute une culture du secret, et ça va prendre des années avant qu'on en vienne à bout. Alain, merci beaucoup, Alain Pronkin. Alain Pronkin, je ne vais pas oublier, Alain Pronkin qui est spécialiste des nouvelles religieuses.